Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est notre 23e de la 11e saison. Notre invité est aujourd'hui Frédéric Falcon, bonjour.
Bonjour.
Député de la circonscription de Narbonne, élu depuis 3 ans, enfin on va y revenir un petit peu plus dans les détails, donc élu Rassemblement National. Alors bon, je n'ai pas besoin de souligner qu'aujourd'hui il y a une grande effervescence, mais nous allons nous concentrer, comme vous vous en doutez, essentiellement sur l'aspect local des choses, puisque Monsieur Falcon, vous êtes député de cette circonscription narbonnaise. Alors, très rapidement, rappelez un petit peu comment vous êtes venu, parce que c'est votre premier mandat, vous êtes relativement jeune également en politique, comment vous êtes venu à vous engager dans cette voie-là?
Déjà, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, de me laisser la parole. Alors, j'ai été élu en 2022, suite à la présidentielle, il y a eu des législatives qui ont été organisées. J'ai toujours été très politisé, c'est-à-dire que j'étais très jeune en
votre quartier. Famille était politisée?
Oui, j'en ai une famille qui est très politisée, d'ailleurs, qui n'a pas toujours été de droite. Hein. J'avais aussi des grands-parents, une grand-mère féministe, mon grand-père aussi très engagé, mon père plus jeune aussi engagé.
Centre-gauche ou
mais 68
ou communiste par exemple.
Il y avait de tout dans la famille, il y a vraiment de tout. Je crois que ma famille représente bien un petit peu une famille française dans sa diversité, si vous voulez, d'opinion. Il y avait des gaullistes, il y avait des communistes, des socialistes. Donc on a toujours été très...
Mais les repas de famille devaient être chauds alors.
Mais l'époque a bien changé et si vous voulez, la France des années 2020 n'est plus celle des années 60, 70 ou 80. Et donc globalement aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans les valeurs du Rassemblement National. Donc j'ai grandi avec la politique depuis tout petit. J'étais plus jeune étudiant encarté aussi dans des mouvements plutôt de droite traditionnelle, si vous voulez. À l'époque, c'était l'UMP.
Au niveau estudiantin, vous voulez dire?
Absolument, absolument. Et puis, de déception en déception, je me suis rapproché du Rassemblement National en 2017. Et je crois que l'élection de 2017, ça a vraiment été le déclencheur. Donc j'ai adhéré à ce qui était le début du Rassemblement National. Et ensuite, la situation se dégradant, ne pouvant plus rester les bras croisés, j'ai décidé de franchir le pas. Mais je ne m'attendais pas forcément à être élu en 2022, je dois être honnête, député. Surtout que, pour mémoire, les résultats, enfin les pronostics qui étaient faits en 2022 sur le nombre de sièges étaient plutôt pessimistes. On nous donnait à 15-20 sièges pour Rassemblement National et finalement on a fini à 89 élus. Donc ça a été une belle surprise et forcément ça chamboule votre vie. Et une fois que vous êtes... dedans, vous n'en sortez plus vraiment. Voilà. Et les choses se sont emballées très vite. Il y a eu l'élection de 2022, la dissolution de 2024, avec une réélection dans de bonnes conditions. D'ailleurs, je remercie tous les électeurs qui m'ont soutenu avec ce taux de participation qui était quand même extraordinaire, qu'on n'a pas eu depuis 15-20 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureux d'être député d'une circonscription dont je suis très fier et que je prends plaisir à défendre à l'Assemblée nationale.
Alors, quand vous dites vous ne vous y attendiez pas, au niveau national déjà, d'une certaine façon, et puis 3 députés RN dans l'Aude, dont on connaît l'historique, notamment de gauche, c'est évidemment une autre surprise, même s'il y avait eu déjà, en 1993, je crois, un coup de semonce, mais c'est un petit peu autre chose. Mais je reviens un peu sur le sens de votre engagement, quand vous dites « de déception en déception », Frédéric Falcon, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que depuis 40 ans, la situation de la France se dégrade d'année en année. À chaque fois, vous avez une nouvelle élection avec un nouveau président qui arrive avec des promesses. Et finalement, on a le sentiment que la France, elle est sur un terrain glissant. On est sur un lent déclin. C'est la façon dont je vois les choses. C'est-à-dire que c'est pas une chute brutale, c'est un déclin qui est lent, qui est très très lent. Et aujourd'hui, vous le voyez dans tous les classements internationaux, que ce soit économique, que ce soit sur les résultats scolaires ou autres, il y a un glissement de la France, il y a un déclin de la France, voilà. Et donc, il faut absolument stopper cette hémorragie, ce déclinisme, et stopper cet effondrement des valeurs aussi, parce que il y a un effondrement économique, mais il y a également un effondrement des valeurs. Vous avez une insécurité qui explose, vous avez une immigration qui est incontrôlée, et donc il s'agit envie de remettre tout ça un petit peu d'équerre, si j'ose dire. Donc je crois que le Rassemblement National aujourd'hui, dans son programme, a en tout cas les outils, mais enfin souhaite mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir stopper ce déclin et redresser le pays. Un peu comme ça a été le cas pour les plus anciens au tournant des années 50-60, quand le général de Gaulle est arrivé, la France était dans un état très compliqué. On compare souvent la 4ème République avec la 5ème, enfin la fin de la 5ème aujourd'hui.
La guerre d'Algérie,
vous avez une instabilité politique hein, qui s'est additionnée à tout ça, et vous avez des Français qui ne sont absolument plus écoutés non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, vous avez des politiques qui sont engagées contre l'avis du peuple français, qui se sent trahi, qui se sent dépossédé. Et le Rassemblement National souhaite remettre le peuple au cœur. Pour nous, le peuple, c'est pas une insulte, hein, c'est une question de souveraineté populaire. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Pour que les Français soient écoutés, qu'on puisse appliquer une politique qui corresponde réellement à leurs attentes. Ça, c'est fondamental.
C'est ce que vous appelez le souverainisme.
Oui.
Donc, je sais que c'est une valeur à laquelle vous tenez particulièrement. Et alors, par rapport à ce bref historique, rappel historique, et notamment du retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, est-ce que, par exemple, cette politique-là, ce gaullisme-là, vous y souscriviez à l'époque ?
Alors moi j'étais pas là
parce que c'était. Oui, d'accord.
J'observe simplement.
Mais je veux dire les valeurs exprimé par De Gaulle.
Je pense que on peut. Alors aujourd'hui, tout le monde se réclame du gaullisme, parce qu'à l'époque, oui, De Gaulle ne faisait pas l'unanimité. Il y avait la gauche, il y avait François Mitterrand qui criait au fascisme contre le général De Gaulle.
Et il a été désavoué, il a démissionné.
Il a été désavoué, sauf que le général De Gaulle, quand il perdait une élection ou quand il perdait un référendum, oui, il démissionnait automatiquement.
Voilà.
Aujourd'hui, vous pouvez
perdre pas,
autant d'élections que vous voulez. Le président de la République se maintient quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on a un système qui est en place, qui ne souhaite pas lâcher le pouvoir, qui sent qu'il va être remplacé, et qui après a toutes les bassesses, notamment avec l'affaire judiciaire de Marine Le Pen qu'on effleure aujourd'hui, qui est prêt à toutes les bassesses pour empêcher justement le peuple de reprendre le pouvoir et d'arriver aux responsabilités et d'imposer un changement. C'est comme ça que je vois les choses. On a un système qui est sur la fin, qui est vieillissant, qui a lui-même intériorisé qu'il était en fin de course et qui est prêt à tout pour se maintenir. À tout, voilà.
Oui.
Quitte à instrumentaliser la justice.
Pour donc la notion de souverainisme, si vous voulez bien, Monsieur Falcone, on y reviendra dans une seconde partie, parce que j'aimerais que vous expliquiez un peu plus dans le détail ce que ça représente. Mais revenons d'abord, alors, à votre élection, votre engagement, votre élection. Vous arrivez dans l'Aude, y compris sur la zone narbonnaise, député, en plus, si je puis dire, en plus, entre guillemets, largement élu, c'est-à-dire il n'y a pas tellement de contestations possibles, vous n'avez pas eu de recours ou de choses comme ça. Bon, vous avez quand même pas toujours été bien accueilli par tout le monde lorsque vous occupez, surtout au début du mandat, cette place de député.
Alors, j'ai été très bien accueilli au début du mandat en 2022 par les Narbonnais et les Narbonnaises, par les Audois de ma circonscription.
Là-dessus, enfin, ceux qui ont voté pour vous,
sans doute. Il n'y a pas de difficulté. Il faut faire la distinction, justement, entre les électeurs et, on va dire, la classe politique locale. Pour ce qui est de la classe politique locale, c'est un peu différent, parce qu'il y a eu un effet de sidération. C'est-à-dire que pour la première fois, a été élu un député qui ne venait pas de leur sérail, si j'ose dire. Et donc, je vais quand même mettre des nuances, parce que il y a pu y avoir une forme d'appréhension. Parce qu'au début, on s'attendait pas du tout à l'élection d'un député Rassemblement National. Donc, il y avait une phase d'observation. Et quand ils ont compris.
Sauf que les scores à certaines élections laissaient quand même présager un certain nombre
d'élus. Un certain nombre d'élus n'y croyaient pas du tout. Voilà. Tout simplement parce que, traditionnellement, dans la Narbonnaise, est élu un député qui vient du monde politique. Déjà connu,
oui,
si vous voulez.
Oui, et du sérail, comme vous dites.
Voilà, quand je dis sérail, il n'y a rien de péjoratif.
Et du territoire.
Alors, moi, on a pu me reprocher de ne pas être un natif, mais bon, la majorité de la population narbonnaise, aujourd'hui, n'est pas natif de Narbonne. Et donc, moi, je ne me sens pas étranger à Narbonne, je me sens chez moi. Voilà, j'ai pas vécu toute ma vie, j'ai passé une partie de ma vie, j'ai ma famille qui vit depuis 30 ans, je considère que je suis chez moi ici. Ça reviendrait à dire aux 60% d'Audois et Narbonnais qui ne sont pas nés dans le département, qui ne sont pas chez eux. Donc je pense qu'il faut sortir de ça, mais on a dépassé ce
oui, vous avez senti une inflexion.
Oui, on a dépassé ce cap-là. Il reste, maintenant que je connais un peu mieux les élus locaux, qui ont compris que je n'allais pas me battre contre la Narbonnaise, mais au contraire défendre les intérêts de la Narbonnaise à Paris. Il reste une résistance parmi le Parti socialiste local, qui est en grande difficulté, qui sent le danger arriver et qui craint le remplacement. Et sinon, avec les élus, disons, divers droite, j'ai des rapports tout à fait cordiaux. Voilà, donc il y a une forme de pragmatisme qui s'est installée, on a appris à se connaître. On n'est pas forcément amis, mais moi j'ai pas de difficulté aujourd'hui à travailler avec un certain nombre de maires de la circonscription que j'aide du mieux que je peux, et je crois que c'est plutôt positif. Voilà, tout simplement, le temps a fait son œuvre, et les élus locaux, y compris socialistes, ont intégré que le Rassemblement
De toute
national
façon.
était installé pour un moment, en tout cas dans la vie politique locale. Alors, on parlera des élections municipales à venir, ce sont des élections très différentes, mais voilà, le Rassemblement national, compte tenu de son implantation aujourd'hui, de la force du parti, ne va pas disparaître de l'eau du jour au lendemain. Ce n'était pas un accident. Il y a eu aussi, peut-être chez un certain nombre d'entre eux, l'idée que c'était un accident, mon élection en
Oui, une
2022.
sorte d'éruption cutanée qui allait
Voilà,
disparaître.
un accident de l'histoire, mais la deuxième élection, ma réélection en 2024, avec les scores qu'on connaît, a définitivement dissipé toute cette. Cette vision, parce que
Ouais.
bon.
Alors, vous êtes député de Narbonne, donc c'est un fait incontestable. Cela dit, quand on est député d'opposition, c'est pas toujours facile d'exister. Par exemple, vous arrivez dans votre circonscription, on va vous demander, bon, bah, qu'est-ce que tu as fait à Paris pour Narbonne?
Alors, effectivement, c'est plus confortable quand vous êtes dans une majorité.
Bien
Mais je vais
évidemment.
mettre un bémol quand même, parce que aujourd'hui, vous avez une administration qui est toute puissante. Et qui a pris parfois un peu le pouvoir sur le politique. Donc même en étant dans une majorité, ça peut être difficile aussi de faire avancer un certain nombre de sujets, un certain nombre de projets. Aujourd'hui, la configuration de l'Assemblée nationale est quand même très particulière. Vous avez trois blocs, vous avez une majorité très relative, et à l'Assemblée nationale, rien ne peut se faire sans les voix du Rassemblement national. Par exemple, sur toutes les voix, toutes les, pardon, les projets de loi liés à la sécurité, liés au régalien, ou parfois liés à certaines avancées économiques, c'est toujours trop réduit pour nous, ça va jamais assez loin, mais c'est quand même du mieux pour les Français. Toutes ces lois-là ne peuvent pas être votées, comme la loi sur le narcotrafic qui a été votée il y a quelques jours, enfin il y a 3 jours, ça peut pas se faire sans le Rassemblement national. Donc si vous voulez, on est dans l'opposition, certes, on pourrait penser qu'on a un pouvoir qui est diminué, mais
Enfin,
on est un groupe pivot.
depuis la dissolution, vous avez repris du poil de la bête, si je puis dire.
On a un groupe pivot, la majorité, on va dire les macronistes, ne siègent quasiment plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui siège à l'Assemblée nationale, ce sont nous, le bloc Rassemblement national et les alliés UDR, très présents, d'ailleurs le groupe le plus présent, vous pouvez le voir dans les statistiques, et la gauche qui est quand même assez mobilisée sur un certain nombre de sujets. Au milieu, il y a une désaffection complète, on a le sentiment qu'ils ont un peu baissé les bras, ils ne siègent plus. Par exemple, sur la loi narcotrafic, qui est quand même une loi très importante pour lutter contre le trafic de drogue, y compris à Narbonne, hein, il y a des points de deal, ils n'ont été qu'une dizaine ou une quinzaine à siéger en permanence. Ça pose un
Oui,
problème quand même.
donc c'est une assemblée quand même très différente de ce qu'elle était jadis.
Tout à fait.
On marque Frédéric Falcone une première pause.